1989, affaire Patrick Dils, condamné à tort à cause d'un double infanticide. Il fut un temps, n'est-ce pas, naguère, comme aurait pu dire ma grand-mère, où l'attention des enfants et des adolescents était moins tournée vers les écrans. Les enfants aimaient aller grimper aux arbres, les papas et les mamans en profitaient pour pouvoir tranquillement grimper au rideau. Plutôt que de monter aux arbres, Patrick Dils, lui, préférait collectionner des timbres. Du haut de ses 16 ans, il était assez grand pour entrer dans une benne afin d'aller récupérer des timbres qu'une entreprise avait mis au rebut. Le problème est qu'il est allé les récupérer près d'une scène de crime. Pour protéger Patrick de Dame Justice, toute la famille Dils va mentir. Mais, mauvais calcul, le mensonge est découvert, ça va faire mal. Lorsqu'on est innocent, on ne ment pas. Patrick Dils a menti, mineur ou non, le système judiciaire va lui tailler sur mesure un costume de coupable. Montigny-les-Metz, 29 septembre 1986. Entre deux wagons sont retrouvés les corps de Cyril et Alexandre, tous deux âgés de 8 ans. Leurs crânes ont été fracassés à coups de pierre. Le médecin légiste estime que les deux petits gars ont été tués entre 17h30 et 18h30. Les policiers se mettent au travail. Ils interrogent tout le voisinage, sans résultat. Deux jours après les meurtres, un témoin prend contact avec les policiers chargés de l'enquête pour leur dire qu'ils devraient s'intéresser à Patrick Dils. Rapidement, les policiers vont chercher Patrick Dils sur son lieu de travail et l'informent qu'il est désormais placé en garde à vue. Ils embarquent également un des collègues de Patrick Dils qui aurait été vu près du lieu où ont été assassinés les enfants. En parallèle, une autre brigade de policiers se rend au domicile de Patrick Dils pour placer toute sa famille en garde à vue. Le soir où les meurtres ont été commis, la famille Dils rentre d'un séjour à la campagne, il est 18h45. Pendant que les parents de Patrick déchargent la voiture, comme à son habitude, Patrick Dils file fouiller la benne ordure d'une entreprise pour y trouver des timbres. Je résume. Les deux petits ont perdu la vie, selon le médecin légiste, entre 17h30 et 18h30. Patrick Dils rentre chez lui avec sa famille à 18h45. Dans la logique, Patrick Dils n'a pas pu commettre les infanticides car il est rentré 15 minutes après l'heure indiquée par le médecin légiste concernant la mort des enfants. La police va écarter la piste qui conduit droit à l'innocence de Patrick Dils pour favoriser celle qui fait de lui un coupable. La benne à ordures dans laquelle Patrick Dils est allé chercher les timbres se trouve à proximité de l'endroit où les petits gars ont perdu la vie. La famille de Patrick va l'inciter à ne rien dire à la police. Patrick Dils avait dit à l'un de ses collègues et amis qu'il était allé chercher les timbres dans la benne. Avant d'être arrêté sur son lieu de travail avec ce collègue, Patrick Dils a pris soin de lui demander de ne rien dire à la police concernant les timbres qu'il est allé récupérer. En garde à vue, toute la famille Dils mentira pour protéger Patrick. Les Dils déclarent à la police que Patrick est resté bien sagement aider ses parents à décharger la voiture. Point à la ligne, circulez, il n'y a rien à voir, fichez-lui la paix. La police va relâcher Patrick Dils et sa famille, mais va s'apercevoir du mensonge de la famille Dils, car le collègue qui avait promis à Patrick de tenir sa langue a tout de suite lâché le morceau. D'autre part, les policiers ont en leur possession le témoignage d'un couple qui habite près du lieu du crime et qui a entendu des cris d'enfants aux alentours de 19h. Ça signifie maintenant que le rapport du médecin légiste qui indiquait que la mort des deux enfants survenue au plus tard à 18h30 ne tient plus. Le témoignage du couple souligne que Patrick Dils a très bien pu tuer les enfants car, pour rappel, il est rentré de son séjour à la campagne à 18h45. Afin de pouvoir étayer les soupçons qu'ils ont sur Patrick Dils, les policiers vont mettre le paquet pour retrouver le couple, car ils ont bizarrement oublié de noter le nom et les coordonnées des deux témoins. Étrange. Enfin retrouvés, l'homme et la femme confirment et indiquent qu'ils ont entendu des cris d'enfants apeurés vers 18h50-18h55. Leur mensonge découvert. Patrick Dils et sa famille indiquent à la police qu'après avoir été chercher les timbres dans la benne, Patrick est rentré chez lui à 19h. L'étau se resserre davantage sur Patrick Dils. Il est placé de nouveau en garde à vue. Lors de son interrogatoire, les policiers suggèrent les bonnes réponses à Patrick Dils. C'est exactement le même procédé qui a amené Jean Dehaye à faire des aveux en 1949. Comme quoi, même avec le temps, certaines choses ne changent pas. En 1986, Patrick Dils n'a que 16 ans. Nos professionnels de l'autorité publique vont aller jusqu'à demander à Patrick Dils d'avouer son crime à ses parents. Patrick Dils accepte en pensant qu'il aura le temps de dire à ses parents que les policiers le poussent à s'accuser. Même pas en rêve. Lorsque Patrick Dils a pu voir ses parents, il n'était pas seul avec eux. Les policiers présents lors de l'entrevue poussent Patrick Dils à s'accuser de ce qu'il a fait et immédiatement, les policiers se saisissent de lui pour le placer en cellule. Une reconstitution de la scène du crime est faite. Patrick Dils décrit, avec les informations que la police lui a transmises lors de ses interrogatoires, la manière dont il a tué les enfants. En attendant son procès, Patrick Dils est placé en détention provisoire pendant 2 ans, avec interdiction de voir sa famille. Dils écrit une lettre pour dire qu'il est innocent, mais personne ne le croit. Le temps du procès est venu. Patrick Dils a 18 ans. Il comparaît devant la cour d'assises des mineurs parce qu'il était âgé de 16 ans lorsqu'il a été inculpé du double infanticide. Le procès sera tenu à huis clos, c'est-à-dire sans public. Lors de son procès, Patrick Dils restera mutique. Impressionné par tout l'apparat de la cour d'assises, il ne prononcera au total que 10 mots. À tout juste 18 ans, Patrick Dils est condamné à perpétuité, sans excuse de minorité. Je vais m'arrêter sur ce point un petit instant parce que c'est important. À l'époque du procès de Patrick Dils, un mineur qui comparaissait devant la cour d'assises voyait automatiquement sa peine divisée par 2 parce qu'il n'avait pas atteint l'âge adulte. C'est ce qui était appelé l'excuse de minorité. Patrick Dils n'en a pas bénéficié parce qu'aux yeux des jurés, un accusé qui a tué 2 enfants ne mérite aucune excuse, même s'il était mineur au moment des faits. Patrick Dils dort désormais en prison, mais sa famille ne compte pas en rester là avec la justice. Les Dils changent d'avocat et ce dernier les informe qu'une révision de procès est possible uniquement s'il y a une nouvelle information à verser au dossier. Les Dils ressortent alors une coupure de journal que les enquêteurs avaient préféré ignorer lorsque Patrick Dils a été inculpé du double infanticide. L'article de presse relate l'histoire d'un SDF soupçonné d'être un tueur en série. Ce sans-abri est accusé d'avoir tué un homme à coups de pierre. Les 2 enfants ont été tués à coups de pierre. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Même mode d'exécution pour les enfants et l'homme dont parle le journal. Donc, ce SDF est peut-être le meurtrier des enfants. Le nouvel avocat des Dils sent qu'il y a une piste à creuser. Il a bien raison parce que ce SDF est loin d'être Monsieur Tout-le-Monde. Ce SDF est Francis Holm. Si le prénom de Francis Holm ne vous dit rien, pas de souci, je vais vous dresser le portrait de l'énergumène. Francis Holm est originaire de Metz. Metz se trouve à 11 minutes de Montigny-lès-Metz, la ville où ont été tués les enfants. Voilà, mesdames et messieurs les inspecteurs, je vous laisse faire vos propres déductions. Je reprends. Francis Holm faisait de fréquents séjours à l'hôpital psychiatrique. En 1997, Francis Holm est soupçonné d'une douzaine de meurtres. Il a été condamné plusieurs fois à perpétuité. surnommé le routard du crime, Holm se met la mort au hasard de ses pérégrinations à travers la France. Bon, pour en savoir plus sur Francis Holm, l'avocat de Patrick Dietz prend contact avec le gendarme qui a arrêté Holm en 1992. Le gendarme dit à l'avocat que Holm lui avait parlé d'une histoire assez troublante. Holm avait fait une promenade en vélo, des enfants lui avaient jeté des pierres, il aurait poursuivi sa route, puis il serait revenu sur les lieux quelques minutes plus tard où il aurait vu la police, les pompiers et les enfants morts sur les voies. À la suite de l'histoire racontée par Holm, le gendarme vérifie la véracité du témoignage. Francis Holm était bien dans les environs avant la mort des enfants. Ça signifie qu'il a pu leur faire du mal. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je me suis demandé pourquoi Francis Holm, qui est un tueur en série multirécidiviste, n'a pas été suspecté des meurtres des enfants en même temps que Patrick Dils. La raison est évidente. Au moment où les enfants ont été tués, la police n'avait pas encore mis la main sur Francis Holm. Son passé de tueur en série n'avait pas encore été découvert. Pour avoir menti à propos de sa présence près du lieu du crime, Patrick Dils est arrêté, inculpé et condamné pour le meurtre des enfants perpétré en 1986. Ensuite, en 1992, la police arrête enfin Francis Holm. C'est à ce moment-là qu'Holm avoue certains meurtres qu'il a commis et raconte son histoire concernant les deux enfants qu'il a rencontrés. Pour les gendarmes qui ont arrêté Francis Holm, c'est une affaire résolue, car Patrick Dils a été reconnu coupable du meurtre des enfants. C'est grâce au nouvel avocat de Patrick Dils et au témoignage du gendarme que le lien entre les meurtres des enfants et Francis Holm va pouvoir se faire. Il s'agit d'une nouvelle information, l'avocat de Patrick Dils court auprès de l'instance judiciaire compétente pour faire la demande d'une révision de procès. En 1999, la Cour de cassation rend son verdict. La présence de Francis Holm dans les éparages du crime ne suffit pas pour rouvrir le procès. Il est demandé au service de police un complément d'information. En clair, la Cour de cassation demande aux policiers de se remettre au travail pour trouver des preuves. Les policiers parcourent les photos de la scène du crime des enfants avec celle des anciens meurtres de Francis Holm. Holm a une signature. Lorsqu'il tue, à la fin de son acte, il baisse légèrement le pantalon de sa victime. En 1986, lorsque Patrick Dils a été arrêté, on lui a présenté une photo sur laquelle l'un des deux petits gars avait le pantalon légèrement baissé. Cette fois-ci, il n'y a plus beaucoup de place au doute. Francis Holm est suspecté. La Cour de cassation annule le jugement de Patrick Dils. Après 15 ans de prison, Patrick Dils est présumé innocent, mais il reste en prison. Incroyable. En 2001, Patrick Dils obtient la révision de son procès. Francis Holm est convoqué au procès. La cour cherche à le faire avouer les crimes des enfants. Francis Holm n'endossera pas les crimes. L'avocat général souligne qu'il n'a pas été possible pour Patrick Dils de tuer deux enfants à coups de pierre, de se laver les mains et de rentrer chez lui en 9 minutes. L'avocat de Patrick Dils demande l'acquittement de son client. Les délibérations des jurés durent 6 heures. La famille Dils et toute la presse s'attendent à la libération de Patrick. Première question posée aux jurés. Patrick Dils est-il coupable des meurtres des deux enfants? Les jurés répondent oui. Au lieu de la perpétuité, le juge de ce nouveau procès condamne Patrick Dils à 25 ans de prison. Mais ce n'est pas perdu. Avec le temps, les lois changent. Patrick Dils va être le premier à pouvoir faire appel d'une condamnation aux assises. Il est bon de savoir qu'avant 1999, lorsqu'un accusé était condamné en cour d'assises, il n'était pas possible de contester la condamnation. D'ailleurs, je vous parle de cour d'assises, mais peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Je vais détailler. Lorsqu'une personne est poursuivie en justice, elle peut être condamnée soit par le tribunal correctionnel, si c'est une infraction mineure, exemple conduite en état d'ivresse. Quand il s'agit d'un crime, l'accusé comparaît en cour d'assises. Lorsque vous entendez « cour d'assises », traduisez par « grosse bêtise ». Les avocats de Patrick Dils font appel de la condamnation. Patrick Dils aura droit à un troisième procès. Alors, c'est plus une affaire, c'est carrément une succession d'épisodes de Feu de l'amour. Pour ce troisième procès, Patrick Dils se prépare avec son compagnon de cellule à toutes les questions que pourrait lui poser le procureur. D'entrée de jeu, Patrick Dils décide de parler de son séjour en prison. Il déclare devant le public qui s'est déplacé en masse pour assister à son procès qu'il a été violé. Ses paroles jettent l'effroi dans la salle. Tout le monde, en silence, se refait le film de l'affaire de Patrick. Il a été jeté en prison à 16 ans. Lors de son troisième procès, il avait 31 ans. Ce gars innocent a donc été jeté en prison et, en plus de couronner le tout, il a subi des sévices sexuels. Décidément, rien n'aura épargné Patrick Dils. À ce troisième procès, le 15 avril 2002, la cour remet en cause la méthode des policiers qui ont poussé Patrick Dils à s'accuser. Francis Holm, le tueur en série qui était soupçonné d'avoir tué les enfants, est réentendu lors de ce nouveau procès. Il rejette de nouveau sa responsabilité en ce qui concerne la mort des deux petits gars. Le gendarme qui connaît bien Francis Holm dit à l'audience que la manière dont Francis répond aux questions sont des aveux déguisés. Deux pêcheurs viennent témoigner pour dire que le soir du meurtre des deux enfants, ils ont ramassé Francis Holm à quelques mètres des lieux du crime, le visage en sang. Pour rappel, les deux enfants ont été tués à coups de pierre. Tout le monde peut comprendre que lorsqu'on s'acharne sur un être avec une pierre, il y aura forcément des éclaboussures de sang. Bref, avec ce témoignage, Francis Holm devient le suspect et Patrick Dils, la victime collatérale. Vient le tour de la parole des gendarmes. Ils apportent la preuve que Patrick Dils n'avait pas le temps nécessaire pour commettre le crime. Les gendarmes scientifiques affirment que les enfants sont morts aux alentours de 17h. Patrick Dils est rentré de son séjour à la campagne avec sa famille vers 18h45. Il est ensuite allé récupérer les timbres dans la benne à ordures à quelques mètres du lieu du crime. Et il est rentré chez lui vers 19h ce soir-là. L'avocat général dira les yeux dans les yeux de Patrick Dils, attention, accrochez-vous bien, si vous bénéficiez du doute, monsieur Dils, en gros, si vous êtes acquitté, ayez une nouvelle pudeur. Vous avez pris la place de l'accusé, ne venez pas disputer celle des victimes, car vous n'êtes la victime que de vous-même. Voilà, prends-toi ça dans les dents après 15 ans de prison pour rien. Pour être plus clair, le mec lui a dit, tu t'es accusé, c'est ta faute, ne viens pas chialer. Après 4 heures de délibération, Patrick Dils est acquitté. Il recevra 1 million d'euros pour dédommager 15 ans de prison. Petit calcul, pour chaque année passée en prison, Patrick Dils a touché 66 666 euros. Très bizarre ce nombre. Bon, divisé par 12, il a empoché 5 555 euros tous les mois pendant 15 ans. Plus, ne l'oublions pas, des remonnages fréquents de cheminée. Veuillez m'excuser pour le petit jeu de mots qui va suivre, mais même pour 1 million d'euros, ça ne vaut pas le cul. Revenons sur les points clés de l'affaire Patrick Dils. Patrick Dils a été jeté en prison parce qu'il est allé chercher des timbres à proximité du lieu d'un crime et à cause d'un mensonge qui était censé le protéger. Si Patrick Dils avait eu la paresse de ne pas aller chercher ses timbres dans la benne, jamais la police ne l'aurait soupçonné. Patrick Dils doit sa libération à ses parents qui ont changé d'innombrables fois d'avocat jusqu'à en rencontrer un qui s'est investi afin de le faire libérer. Question, est-ce qu'1 million d'euros sont suffisants pour avoir passé 15 ans en prison ? C'est l'heure de la morale. Pour la morale de cette histoire, je vais citer un grand penseur contemporain qui a fait partie d'un groupe mythique. Attention, je cite « Laisse pas traîner ton fils ».